Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 2, scène 4. Le vieux comte, dont la chasse avait toujours été tenue sur un grand pied, ne s'en occupait plus depuis qu'il l'avait remise entre les mains de son fils. Mais ce jour-là, 18 septembre, se sentant de bonne humeur, il décida à y prendre part. L'équipage de chasse et les chasseurs se trouvèrent bientôt réunis devant le perron. Nicolas, l'air soucieux et préoccupé, passa devant Pétia et Natacha sans faire attention à ce qu'ils lui disaient. Pouvait-on, en cet instant solennel, penser à des futilités? Il examina tout en détail, envoya en avant les chasseurs et la meute, enfourcha son alezan d'honnête et, sifflant à lui sa laisse de chien, il franchit l'enclos pour se diriger à travers champs vers le bois d'Outradnoyais. Un domestique d'écurie, mené par la bride d'une jument bébrun à crinière blanche, appelée Viflianka. C'était la monture du vieux comte, qui devait se rendre à Drojki au rendez-vous indiqué. 54 chiens courants, 40 lévriers et plusieurs chiens en laisse, accompagnés de 6 veneurs et d'un grand nombre de valets de chiens, formaient un total de 130 chiens et de 20 chasseurs à cheval. Chaque chien connaissait son maître et répondait à son nom. Chaque chasseur savait d'avance ce qu'il avait à faire et l'endroit où il devait se poster. Dès que les cavaliers eurent dépassé l'enceinte, ils débouchèrent en silence sur la grande route et s'engagèrent sur les prairies, dont les chevaux foulaient sans bruit le tapis moelleux et faisaient jaillir sous leurs sabots l'eau des flaques des sentiers de traverse. Le ciel brumeux s'abaissait toujours imperceptiblement. Dans l'air calme et pur, retentissait parfois le sifflet d'un chasseur, le hennissement d'un cheval, le claquement d'un long fouet et le cri plaintif d'un chien flâneur qu'un valet rappelait à son devoir. À une verste de distance, 5 autres chasseurs, à cheval, émergèrent tout à coup du brouillard avec leurs chiens et se joignirent aux premiers. Ils avaient à leur tête un beau vieillard, de belle prestance, portant une longue et épaisse moustache grise.
« Bonjour, petit oncle !»
lui dit Nicolas.
« Affaire sûre ! En avant, marche ! Je le savais bien !»
répondit le nouveau venu, petit propriétaire voisin des Rostov et quelque peu leurs parents.
« Je disais bien que tu n'y tiendrais pas, et tu as eu raison, morbleu. Affaire sûre, en avant, marche »
dit-il en répétant son expression favorite.
« Empare-toi du bois sans retard, car mon Girtchik m'a annoncé que les Iliagines sont en chasse du côté de Korniki. Et alors, il se pourrait bien faire qu'ils t'enlevassent toute la portée sous le nez. Affaire sûre, en avant, marche !» « J'y vais tout droit. » « Faut-il assembler les meutes ?»
lui demanda Nicolas. L'ordre fut donné et les deux cavaliers s'avancèrent côte à côte. Natacha, enveloppée dans son châle, qui laissait à peine entrevoir ses yeux brillants et sa figure animée, les rejoignit bientôt, suivie de Pétia, de Mikhailo, le chasseur, et d'un vieux valet d'écurie qui remplissait auprès d'elle les fonctions de garde du corps. Pétia riait sans rime ni raison, et agaçait sa monture par de légers coups de cravache. Natacha, gracieuse et ferme en selle, modérait d'une main assurée l'ardeur de son arabe, à la robe noire et lustrée. Le petit oncle lança de côté un regard mécontent sur la jeunesse, car la chasse au loup était une entreprise sérieuse qui ne comportait aucune espièglerie.
« Bonjour, petit oncle, nous sommes des vôtres !»
s'écria Pétia.
« Bonjour, bonjour !» « N'écrasez pas les chiens !»
répliqua sévèrement le vieux.
« Nicolas, quel trésor de bête que Trounila ! Il m'a reconnu !» dit à son tour Natacha, qui faisait des signes à son chien favori.
« D'abord, Trounila n'est pas une bête, mais un chien de chasse !»
répliqua Nicolas, en jetant à sa sœur un regard destiné à lui faire comprendre sa supériorité et la distance qu'il y avait entre eux deux. Elle comprit.
« Nous ne vous gênerons pas, petit oncle, »
reprit-elle.
« Nous ne gênerons personne. Nous resterons à notre place, sans bouger. »«
et ce sera parfait, petite comtesse. Seulement, attention, n'allez pas tomber de cheval, car alors, affaire sûre, en avant-marche, pas moyen de se rattraper. »
On n'était plus qu'à 100 sagesse du petit bois. Rostov et le petit oncle ayant décidé de quel côté on devait lancer la meute, le premier indiqua à Natacha sa place. Ou, par parenthèse, il était à présumer qu'elle ne verrait rien passer, et poussa plus loin, au-delà du ravin.
« Attention, petit neveu, c'est une louve-mère. Ne va pas la laisser échapper. »« On verra, »
répondit Rostov.
« Hé, Karaé !»
dit-il en s'adressant à un vieux chien à poils roux que l'âge avait rendu fort laid, mais qui était connu pour se jeter à lui tout seul sur une louve. Le vieux comte connaissait par expérience l'ardeur que son fils apportait à la chasse. Aussi se dépêchait-il d'arriver, et l'on avait à peine eu le temps de placer chacun à son poste que le drojki, attelé de deux chevaux noirs et roulant son secousse à travers la plaine, déposa le comte Ilya Andreïevitch à l'endroit qu'il s'était assigné à l'avance. Son teint était vermeil, son humeur joyeuse. Ramenant sur lui son manteau fourré et prenant son fusil et ses munitions des mains de son chasseur, il se hissa lourdement en selle sur sa bonne et vieille Vifliyanka en donnant l'ordre au drojki de retourner au château. Sans être un chasseur enragé, il observait cependant toutes les lois de la chasse et, se plaçant sur la lisière même du bois, il rassembla les rênes dans sa main gauche, se mit bien d'aplomb et, ses préparatifs une fois achevés, regarda autour de lui en souriant. Il était prêt. Il avait à ses côtés son valet de chambre, Semyon Tchekmar, bon cavalier, mais alourdi par l'âge, qui tenait en laisse trois grands lévriers à longs poils, d'une race particulière à la Russie et spécialement destinée à chasser le loup. Intelligent mais vieux, il se reposait à ses pieds. À 100 pas plus loin se tenait l'écuyer du comte, Mitka, hardi cavalier et chasseur endiablé. Le comte, fidèle à ses habitudes, avala une tcharka d'excellente et véritable eau-de-vie de chasseur et mangea un petit morceau de viande, qu'il arrosa encore d'une demi-bouteille de son bordeaux favori. Le vin et la course lui donnèrent des couleurs. Ses yeux s'animèrent et, emmailloté dans sa bonne et chaude fourrure, il ressemblait à un enfant que l'on mène promener.
Tchekmar, maigre, les joues creuses, ayant aussi terminé sa besogne, examina son maître, avec lequel il ne faisait qu'une âme depuis 30 ans, et, le voyant d'humeur si agréable, se prépara à entamer avec lui une conversation aussi agréable que son humeur. Un troisième personnage à cheval, un vieillard à barbe blanche, en caftan de femme, portant une coiffure très élevée, s'approcha d'eux sans bruit et s'arrêta un peu en arrière du comte. C'était le bouffon Nastassia Ivanovna.
« Eh bien, Nastassia Ivanovna, »
lui dit tout bas le comte en clignant de l'œil.
« Prends garde, si tu as le malheur d'effrayer la bête, tu auras affaire à Danilo. J'ai moi aussi bec et ongles, »
répliqua Nastassia Ivanovna.
« Chut, chut !»
fit le comte. Et, se tournant vers Semyon, il ajouta.
« As-tu vu Nathalie Ilinichna? Où est-elle ?
Elle est avec son frère près des alliés de Yarov. Voilà un plaisir pour elle, et c'est une demoiselle pourtant.
N'est-ce pas étonnant de la voir à cheval, Semyon, hein ? Comme elle monte, on dirait un homme.
Comment ne pas s'en étonner ? Peur de rien et si ferme en selle.
Et Nicolas, où est-il ?
Au-dessus de Liadov. Pas de danger, il connaît les bons endroits. Et quel cavalier ! Nous nous en émerveillons parfois avec Danilo. »
poursuivit Semyon, qui aimait à faire la cour à son maître.
« Oui, oui, comme il est bien en selle, hein ?»«
Il est à peindre. L'autre jour, par exemple, dans la plaine de Zavarzin, lorsqu'il forçait à fond de train le renard sur un cheval de 1000 roubles. Quant au cavalier, il n'y a pas de prix pour lui. » Un beau garçon comme celui-là, on chercherait longtemps sans en dénicher un autre.
« Oui, oui !»
répéta le comte.
« Oui, oui !»
En relevant les pans de sa fourrure, il fouilla dans sa poche pour en retirer sa tabatière.
« Et l'autre jour ?»
reprit Semyon.
« À la sortie de l'église, lorsque Mikhaïl Sodorovitch l'a rencontré en grande tenue,
Mais Sémione s'arrêta court. Le bruit de la meute en chasse et le jappement de deux ou trois chiens avaient frappé ses oreilles à travers le calme de l'atmosphère. Il baissa la tête, écouta et fit signe au comte de ne pas parler.
« Ils sont sur la piste, »
murmura-t-il. Le comte, souriant encore des derniers mots de Sémione, regardait au loin devant lui et tenait sa tabatière entr'ouverte sans songer à priser. Le corps de Danilo résonna et annonça que la bête était en vue. Les meutes rallièrent les trois limiers et tous ensemble donnèrent de la voix de cette façon qui est particulière à la chasse aux loups. Les valets de chiens ne les excitaient plus en criant « Vélo !» Au-dessus de tout ce bruit de voix, à timbres différents, on entendait celle de Danilo, passant de la basse la plus profonde aux notes les plus aiguës, et emplissant, à elle toute seule, de ses bruyants éclats, la forêt et les champs d'alentour. Quelques secondes d'attention suffirent au comte et à son écuyer pour comprendre que la meute s'était divisée. Une moitié, celle qui jappait avec fureur, s'éloigna graduellement, tandis que l'autre, poussée par Danilo, passa sous bois à quelques pas d'eux. Et les aboiements des deux meutes, en se confondant ensemble, leur indiquèrent bientôt que la chasse avait pris une autre direction. Sémione poussa un soupir et dégagea un des chiens pris dans la laisse. Le comte soupira de son côté, et, faisant seulement alors attention à sa tabatière, il l'ouvrit et y prit une pincée de tabac.
« Derrière !»
s'écria Sémione à un de ses chiens qui s'était avancé au-delà de la lisière. Le comte tressaillit et laissa tomber sa tabatière. Nastassia Ivanovna descendit de cheval et la ramassa. Tout à coup, comme il arrive souvent, la chasse se rapprocha, et l'on aurait dit que toutes ces gueules qui glapissaient et aboyaient à l'envi étaient là, devant eux. Le comte se tourna vers la droite et aperçut Mitka, les yeux sortant de leur orbite, qui, leur faisant signe de son bonnet, lui montrait quelque chose du côté opposé.
« À vous !»
lui criait-il, d'une voix dont l'éclat prouvait qu'elle demandait depuis longtemps à faire explosion. Et il se dirigea vers lui au galop en lâchant ses chiens. Le comte et Sémione se précipitèrent hors du bois et virent à leur gauche le loup qui venait à eux en se balançant sur ses hanches et en bondissant sans se presser. Les chiens excités donnèrent et, s'arrachant à leur laisse, s'élancèrent à sa poursuite. Le loup s'arrêta, tourna gauchement de leur côté sa grosse et large tête, comme aurait fait quelqu'un qui souffrait d'une angine, et, relevant la queue, reprit tranquillement sa course pour disparaître bientôt en deux bonds dans le fourri. Au même moment, de la lisière opposée du bois, sortit un chien, puis un second. Puis la meute entière, affolée, éperdue, traversa la clairière pour s'élancer à son tour à la suite du loup et, entre les branches écartées des noisetiers, apparut, couvert d'écume, le cheval alezan de Danilo. Penché en avant, ramassé sur lui-même, son cavalier, tête nue, ses cheveux gris au vent, la figure rouge et ruisselante de sueur, s'égosillait à crier de toutes ses forces.
« Vélo, vélo !»
À la vue du comte, ses yeux s'allumèrent de colère.
« Sacre nom !»
hurla-t-il en le menaçant de son fouet.
« Au diable les chasseurs, avoir laissé échapper la bête !»
Jugeant que son maître, encore tout ahuri, était indigne d'une plus longue conversation, il appliqua avec fureur le coup de fouet qu'il lui destinait sur les flancs haletants et mouillés de son innocente monture et s'élança dans la forêt sur les traces de la meute. Le comte, interdit de cette verte algarade, essaya de sourire en se tournant vers Sémione, qu'il espérait attendrir, mais Sémione n'était plus là. Contournant les broussailles, il essayait de rejeter la bête hors du bois. Les lévriers le poursuivaient de droite et de gauche. Mais, se glissant dans le fourré, le loup ne tarda pas à se dérober au regard des chasseurs.